Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 3 mars 2025. En direct de Washington, Rosine Munezero. Pour commencer, les titres. En RDC, l'armée qualifie de montage grossier la remise au Rwanda par le M23 de combattants présumés du FDLR. Les médiateurs ouest-africains dépêchés en Guinée-Bissau disent avoir quitté le pays le week-end après des menaces d'expulsion du président Oumarou Sissoko Embalo. L'Égypte accueille ce lundi une réunion des ministres arabes des affaires étrangères pour discuter du plan de reconstruction de Gaza. Une quinzaine d'alliés de l'Ukraine se sont réunis hier à Londres pour discuter de garanties de sécurité. Et dans notre partie magazine au Cameroun, les autorités ont ordonné une vaste opération de fermeture des églises illégales.
Et ce sont les églises là qui nous sauvent beaucoup de Camerounais à ce moment-ci là. Il y a trop de mauvaises choses qui se passent au pays. Donc ce n'est que les églises là qui nous mettaient encore debout, moi et ma famille.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. L'armée de la République démocratique du Congo a qualifié dimanche de montage grossier la remise au Rwanda par le M23 de combattants présumés du FDLR, rébellion hostile à Kigali. Kinshasa accuse Kigali de manipuler la situation pour discréditer l'armée congolaise. Les détails avec Nani Talani.
Le week-end, au poste frontière entre Goma, RDC et Gisenyi, Rwanda, le M23 a remis devant les caméras à l'armée rwandaise 20 personnes présentées comme des combattants des FDLR. Cette action est un montage de mauvais goût orchestré dans le seul but de discréditer notre armée. Et ceci rentre également dans la stratégie rwandaise destinée à justifier l'invasion d'une partie du territoire de la RDC, estime l'état-major général des FRDC dans un communiqué. La présence active dans l'est de la RDC, frontalière du Rwanda, des rebelles rwandais des FDLR, est une des raisons avancées par Kigali pour justifier la présence de ses troupes aux côtés du M23. Les autorités rwandaises, qui se sont spécialisées dans l'art du mensonge et de la manipulation, ont pris des anciens FDLR détenus au Rwanda et les ont habillés en tenue militaire neuve des FRDC récupérés pour les faire passer pour des combattants FDLR capturés à Goma, assure l'état-major congolais. Selon la liste publiée par l'armée rwandaise, le plus haut gradé des FDLR remis est le général Ezekiel Gakwerere, cité au tribunal pénal international pour le Rwanda comme ayant pris une part active au génocide des Tutsis en 94 à Butare au sud du Rwanda.
Le président du Rwanda, Paul Kagame, a rencontré ce dimanche à Kigali le chef des forces armées ougandaises, Muhoozi Kainerugaba, au moment où l'avancée rapide du groupe armé M23 et de troupes rwandaises dans l'est de la RDC fait craindre un embrasement régional. Muhoozi Kainerugaba, qui est aussi le fils du président ougandais Yoweri Museveni, avait déclaré hier qu'il allait signer à Kigali un pacte de défense entre l'Ouganda et le Rwanda. Quiconque attaque l'un de nos pays aura déclaré la guerre aux deux pays, avait déclaré celui qui est considéré comme le successeur probable de son père âgé de 80 ans. Un responsable de l'armée ougandaise et une source gouvernementale rwandaise ont confirmé la rencontre sous couvert d'anonymat. Aucun détail sur le contenu de celle-ci n'a été donné. Les médiateurs ouest-africains dépêchés en Guinée-Bissau disent avoir quitté le pays le week-end après des menaces d'expulsion du président Oumarou Sissoko Embalo. Dans un communiqué, ils précisent avoir préparé un projet d'accord sur une date des élections. Plus d'infos avec Alexandrine Rolognon.
La mission a préparé un projet d'accord pour une feuille de route pour la tenue des législatives et de la présidentielle et a commencé à le présenter aux parties prenantes pour leur consentement, indique un communiqué signé par le chef des médiateurs régionaux, Bagoudou Hirs, sans préciser le contenu du projet. Les médiateurs vont présenter au président de la commission de la CEDEAO son rapport incluant sa proposition d'une feuille de route pour des élections inclusives et pacifiques en 2025, ajoute le texte. La délégation a quitté Bissau tôt samedi après des menaces du président Embalo de l'expulser, ajoute le communiqué sans plus de précision. La présidence bissau-guinéenne n'a pas encore réagi. Le président Embalo, qui a rencontré les médiateurs au début de leur mission, était en voyage à l'étranger. Les médiateurs de la CEDEAO, arrivés à Bissau fin février, ont dit avoir rencontré différents acteurs nationaux et internationaux impliqués dans la gestion des élections. Ils ont cherché à résoudre les divergences entre le pouvoir et l'opposition sur la fin du mandat du président Embalo. Ce dernier avait annoncé que les élections se tiendraient le 30 novembre. La Cour suprême fixait la fin de son mandat au 4 septembre et l'opposition dirigée par Domingos Simoes Pereira le plaçait au 27 février.
L'Égypte a rejeté dimanche la décision des paramilitaires des forces de soutien rapide et leurs alliés au Soudan de former un gouvernement parallèle, avertissant qu'une telle mesure compromettait l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays déchiré par la guerre. De telles actions compliquent la situation au Soudan, entravent les efforts en cours pour unifier les visions politiques et aggravent la crise humanitaire, a déclaré le ministère égyptien des Affaires étrangères dans un communiqué. Le procès d'un grand nombre d'opposants au président Kais Saied, parmi les plus connus de Tunisie, s'ouvre mardi pour complot contre la sûreté de l'État. Une affaire dénoncée comme vide et politique par des ONG et l'opposition. Responsable de parti, avocat, figure des médias, une quarantaine de personnes issues de divers courants sont poursuivies. Nombre d'entre elles sont soupçonnées de contact avec l'étranger, notamment des diplomates.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Donald Trump s'adressera mardi à une session conjointe du Congrès pour exposer sa vision des États-Unis et du monde. Le président Trump devrait vanter les nombreux décrets pris au cours des 43 premiers jours de son mandat et donner un aperçu des 1419 jours restants. Depuis son investiture, Donald Trump a entamé une réforme des agences fédérales, licencié des milliers de fonctionnaires et renforcé la lutte contre l'immigration illégale. L'Égypte accueille ce lundi une réunion des ministres arabes des Affaires étrangères en prélude d'un sommet des dirigeants arabes mardi pour discuter du plan de reconstruction de Gaza. Le Caire insiste sur la mise en œuvre intégrale de l'accord de trêve entre Israël et le Hamas. Le point avec Abdourahmane Tia.
Le chef de la diplomatie égyptienne, Badr Abdelati, a déclaré qu'un plan doit être présenté aux partenaires arabes pour approbation. Lors d'une conférence de presse au Caire, il a appelé hier à une mise en œuvre fidèle et intégrale de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Il a également exhorté l'Union européenne à exercer une pression maximale sur les parties, en particulier la partie israélienne, concernant l'engagement envers le cessez-le-feu. L'accord, entré en vigueur le 19 janvier, est actuellement dans l'impasse après la fin de sa première phase de 42 jours. Israël soutient une extension de la trêve pendant le Ramadan et la Pâque juive. Mais le Hamas refuse cette proposition et insiste sur la mise en œuvre de la deuxième phase qui inclurait la fin définitive de la guerre et la libération des otages israéliens. Malgré les tensions, des progrès restent possibles si les parties font preuve de bonne volonté, selon la diplomatie égyptienne. Parallèlement, le CICR appelle à maintenir le cessez-le-feu pour éviter de nouvelles souffrances et permettre l'entrée de l'aide humanitaire, bien que le Hamas ait dénoncé la suspension de cette aide par Israël.
Une quinzaine d'alliés de l'Ukraine se sont réunis hier à Londres pour discuter de garanties de sécurité. Ils ont mis l'accent sur le renforcement de la défense européenne, la hausse des dépenses de défense et la nécessité d'une sécurité globale pour l'Ukraine. Les précisions de John Lindon.
Les alliés européens de Kiev ont resserré les rangs pour la soutenir en s'engageant à faire plus pour la sécurité en Europe et davantage d'armées tout en insistant sur la nécessité de conserver un fort soutien des États-Unis. L'Europe doit faire le gros du travail, mais pour défendre la paix sur notre continent et pour réussir, cet effort doit être fortement soutenu par les États-Unis, a déclaré le Premier ministre britannique Keir Starmer. Davantage de pays européens vont augmenter leurs dépenses de défense, a assuré le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, saluant une très bonne nouvelle. Nous devons urgemment réarmer l'Europe, a lancé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en prônant d'augmenter les dépenses de défense. Les dirigeants présents réunis autour du président ukrainien Volodymyr Zelensky ont évoqué le besoin des garanties de sécurité globale pour l'Ukraine dans l'avenir qui vont de la survie économique à la résilience militaire, selon Madame von der Leyen. Keith Starmer a assuré Zelensky du soutien aussi longtemps qu'il le faudra de tous les dirigeants assis autour de la table. Disant avoir parlé plusieurs fois avec le président Trump, le patron de l'OTAN a assuré que les États-Unis font partie de l'OTAN, ils sont engagés dans l'OTAN.
Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Biobab a conclu un partenariat stratégique de 5 ans avec Infobip. Le fournisseur africain de connectivité numérique aura accès aux solutions de sécurité de la start-up croate de communication cloud. Biobab opère sur le continent avec plus de 115 000 km de câbles en fibre optique, gère une vingtaine de câbles sous-marins et plus de 70 points de présence en Afrique, en Europe et en Asie. La société nigérienne d'électricité a conclu un accord avec la compagnie algérienne Sonelgaz pour la construction d'une centrale électrique de 40 mégawatts au Niger. Le partenariat comprend un accompagnement pour le développement des infrastructures de distribution d'électricité et un encadrement pour la formation de techniciens en énergie renouvelable, entre autres expertises. L'ambassade de Corée du Sud en Côte d'Ivoire a lancé un appel à candidature pour des bourses d'études qui s'adresse aux Ivoiriens, Burkinabés et Nigériens pour étudier dans des universités coréennes. Les candidats doivent être âgés de moins de 40 ans et parler anglais ou coréen. Le programme de bourse couvre 3 ans pour le master et 4 ans pour le doctorat. Les candidatures doivent être déposées à l'ambassade à Abidjan avant le 7 mars.
Place maintenant sport avec Élisée Oumpatine. Bonjour Élisée.
Bonjour Rosine et bonjour à tous.
Football pour commencer, fin hier du barrage aller des qualifications pour le prochain CAN.
Oui, avec la belle performance réalisée par le Malawi, vainqueur en déplacement 2-0 sur la pelouse des Comores. Torres, en revanche, a joué le week-end prochain pour les deux autres matchs. L'Afrique du Sud, accroché 1-1 à domicile par l'Égypte et 0 partout à Thiès au Sénégal entre la Gambie et le Gabon. À noter que les vainqueurs du match Comores, Malawi et Afrique du Sud-Égypte s'affronteront au second tour et celui entre la Gambie et le Gabon sera opposé à l'Algérie. Les deux vainqueurs de ces barrages rejoindront le groupe C de la phase finale, déjà composé de l'Ouganda, du Niger et de la Guinée.
Élisée, on a aussi assisté à de belles oppositions dans certains championnats sur le continent.
Et justement en Guinée, avec le derby de Conakry entre le Afia et le Oroya comptant pour la 9e journée de la Ligue 1. Un duel remporté par les Verts de Dissim qui ont réalisé l'essentiel 1-0 devant les Rouges de Matam pour consolider leur première place au classement avec 19 points. La 12e journée au Togo a été bénéfique aussi pour l'Entente 2 de Lomé, victorieuse 1-0 de l'AS OTR pour prendre 3 points sur son dauphin Unisport, tenu en échec 2-2 par Aknou.
En RDC, la 16e journée a été parfaite pour les deux leaders.
D'abord, dans le groupe A, avec le TP Mazembe qui s'impose 2-1 face à Tanganyika et Manema Union dans la poule B qui est allé dominer 3-1 au C Renaissance. Belle journée également pour les deux premiers du championnat béninois au terme de la 20e journée. Succès 3-1 de Dadjé FC d'Aplakwe sur Real Sport du Savet et 1-0 en faveur des Dragons de Lomé opposés à Asvo d'Adjourou. Et puis, toujours en football, la fédération rwandaise vient d'engager un nouveau sélectionneur pour son équipe nationale. Adel Amrouche, qui avait dirigé la Tanzanie lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, s'est engagé pour 2 ans. Le technicien algérien, suspendu par la CAF puis rétabli par le TAS, sera à la tête des Amavubi en décembre et janvier pour la prochaine CAN au Maroc.
On reste au Rwanda pour parler du tour cycliste remporté hier par le Français Fabien Doubet après l'annulation de la 7e et dernière étape.
Tout à fait, Rosine. C'était en raison de la pluie et des routes glissantes à Kigali. Le coureur de 31 ans, qui avait pris la tête du classement général la veille, décroche sa première victoire chez les pros avec 6 secondes d'avance sur l'Érythréen Enoch Mouloubran et 11 sur l'Allemand Oliver Matthäus. La course s'est terminée en queue de poisson avec l'annulation de la dernière étape en circuit à Kigali, la capitale du pays qui doit accueillir en septembre les premiers championnats du monde sur route. Une première en Afrique.
Merci Élisée. du jour. Au Cameroun, les autorités ont ordonné une vaste opération de fermeture des églises illégales. La mesure touche notamment les églises dites de réveil, n'ayant pas obtenu le décret présidentiel pour être fonctionnelles. D'après le gouvernement, plusieurs dérives allant jusqu'à l'extorsion des fidèles sont enregistrées au sein de ces églises. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap.
À Yaoundé, c'est dans le 4e arrondissement que la fermeture des églises de réveil a été plus retentissante. 188 lieux de culte illégaux ont été mis sous scellé au grand désarroi de Rosine Dana, coiffeuse et fidèle d'une église de réveil.
Et ce sont les églises là qui nous sauvent beaucoup de Camerounais à ce moment-ci là. Il y a trop de mauvaises choses qui se passent au pays. Donc ce n'est que les églises là qui nous mettaient encore debout, moi et ma famille. Si ce n'était que les hôpitaux là, c'est que je suis déjà mort depuis.
Depuis juillet dernier, le ministère de l'administration territoriale, en collaboration avec les services de renseignement, les chefs de village, de quartier et de bloc, ont mené des enquêtes sur les promoteurs des églises de réveil et leurs activités. Louis-Marcel Ndi, chef de bloc au lieu dit Biten Kafko à Yaoundé 4, est voisin d'une église mise sous scellé.
La nuisance sonore est déjà la première des préoccupations. Je reçois les plaintes verbales déjà des populations qui viennent se plaindre à tout moment. Il y a une semaine, j'ai demandé le programme des messes et des prières qu'on me donne parce que c'était déjà un peu de trop au niveau de la nuisance sonore.
615 chapelles et paroisses ont été recensées dans l'arrondissement de Yaoundé 4, une prolifération qui s'accompagne des pratiques telles que des prête-noms ou encore de sous-traitance de décrets présidentiels légalisant les associations religieuses. Elvis Akondi, sous-préfet de Yaoundé 4.
Nos investigations sur le terrain nous ont permis, quand on faisait le recensement, les pasteurs ont dit, comme nous sommes butés, nous préférons prêter le décret. Et les taux qu'on a eu, c'est que les décrets sont prêtés entre 100 000 et 50 000 au mois. Chaque mois, vous partez, pour celui qui a prêté le décret, vous versez un montant. Oui, et ce montant sort d'où? On doit prendre chez les fidèles. Et on a vu les pasteurs, quand ils prennent la copie du décret, ils partent encore sous louer. Les autres lui payent le loyer, lui prend le loyer pour aller payer dans la chaîne là où il a prêté le décret. Donc c'est un désordre terrible, c'est un foutu.
L'autorité administrative évoque également des cas d'abus sur des fidèles. Elvis Akondi, sous-préfet de Yaoundé 4.
Je suis allé dans les églises. On te dit pour la prière, ceux qui veulent la bénédiction, 500 000, vous venez. Personne n'est allé. On descend, 200 000, personne n'est allé. À 100 000, on dit que même le sous-préfet peut venir. Moi, je suis assis, je ne suis pas allé. Et quand on a dit 50 000, j'ai vu beaucoup de fidèles sont allés. Tout dépose, tout met dans le panier, tout accoubli, on prie pour toi.
Sous anonymat, un leader d'une église reconnaît qu'il est temps de mettre de l'ordre dans le milieu des églises dites de réveil au Cameroun.
Je pense que l'action du ministre du sous-préfet Yaoundé 4, que j'apprécie beaucoup, c'est juste pour assainir, c'est juste pour mettre l'ordre. Même le Seigneur a dit, toute autorité vient de Dieu.
Selon le ministère de l'administration territoriale, seules 47 associations religieuses sont autorisées à exercer au Cameroun. Mais de récentes statistiques font état de plus de 3 millions de Camerounais membres des églises de réveil. La plupart de leurs promoteurs sont dans l'illégalité, selon Paul Atanganji, ministre de l'administration territoriale. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Gabon, 11 ans après le drame de Koltang Rails, les constructions autour du Trans-Gabonais se poursuivent. Les scarters de cette zone ferroviaire de Libreville attendent désespérément le plan de déguerpissement qui leur avait été brandi. Pour l'heure, ils vivent avec la psychose d'autres catastrophes. Dans ce village tout près de Libreville, les nuits des populations sont agitées par l'intense activité des trains. Le reportage de notre correspondant Ismaël Obiangze.
Chanel, 60 ans, n'en peut plus. Dormir tranquillement et soudainement se faire réveiller en plein milieu de la nuit par le bruit de train fait partie de son vécu et celui des populations de cette bourgade située à environ 30 km de Libreville.
C'est un conducteur qui exagère un peu sur la manière de klaxonner. Il commence à klaxonner peut-être depuis un kilomètre. Sur le klaxon, il ne lâche pas, il insiste. Vous voyez, ça fait du bruit et les gens ne peuvent pas bien dormir. Parce que le train, déjà, son klaxon a une portée vraiment bien forte. Donc, s'ils peuvent klaxonner modérément, ça va arranger les gens.
pour les habitants de ce village. Chaque réveil est difficile et chaque jour appelle à chacun ici un souvenir dramatique. En février 2014, un train en provenance de Franceville percutait au niveau d'un coltan une voiture. Chanel, notable d'un coltan rail, témoigne.
Un train avait ramassé une voiture, une petite voiture, il y a eu 7 morts du coup. Donc on voyait que c'était vraiment un drame pour le Gabon.
11 ans après, les familles de victimes de l'accident d'un coltan courent toujours derrière une éventuelle indemnisation par CETRAG. Accusé à l'époque d'avoir manqué à ses obligations de sécurité, le transporteur s'est depuis engagé à limiter les déraillements sur ces lignes et avait même promis de déplacer les populations installées autour de la voie ferrée. Edwige, commerçante du village.
Ils savaient qu'on devait nous faire des guerres pires, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de suite. On n'a pas trouvé un site, il n'y a rien, donc on est là, on est dans le que faire. Si l'État pour nous trouver un site qu'on puisse partir, je partirai volontairement. Maintenant, pour moi, quand je n'ai rien, je suis là, je paye l'école de mes enfants, j'ai eu les bacheliers à cette place-là, donc je ne sais pas ce qu'il faut faire.
Non, malgré le danger.
Malgré le danger, je suis là.
En dehors de l'opacité du projet de déguerpissement de la voie ferrée, les squatters visés par l'opération vivent avec le double sentiment d'impuissance et de vive inquiétude.
Ce que nous craignons ici, c'est le déraillement. S'il y a déraillement, cela veut dire que nos vies sont en danger. Si nous sommes venus habiter ici, c'est parce qu'il manque de terrain. C'est pourquoi nous sommes venus habiter à côté de la voie ferrée.
C'est le chemin de fer qui est à l'origine de ce village. Peu après 1978, date de la mise en service du Transgabonais, cette communauté rurale a développé des activités commerciales. Boutiques, bars, marchés de produits agricoles. Ce n'est donc pas un hasard si l'on retrouve une forte concentration humaine le long de la voie ferrée. Ibrahim Ismaël Bionzé pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Pour aider à réduire les risques climatiques et rendre plus résilientes les populations africaines face aux différents chocs, le Centre africain des applications de la météorologie au développement ambitionne de créer un centre météorologique d'excellence sur le continent qui est fortement impacté par les effets des phénomènes extrêmes. Cette nouvelle vision stratégique de l'institution continentale a été présentée à Niamey, au Niger, où elle siège. Plus de précisions avec notre correspondant au Niger, Abdul Razak Idrissa.
Le changement climatique est là et ça va continuer. Aujourd'hui, les phénomènes extrêmes, ce qu'on appelle les phénomènes extrêmes, vont aller être beaucoup plus intenses et beaucoup plus fréquents. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour cela?
C'est là, entre autres questionnements, qui ont abouti à la définition de la nouvelle vision de l'ACMAD, dont la finalité est d'avoir un centre d'excellence en météorologie. Docteur Ousmane Diaye, directeur général.
Ce qu'on aimerait, c'est de pouvoir développer l'intelligence artificielle pour régler les problèmes. C'est une nouvelle science qui existe et on voudrait s'accaparer de cela et former les gens, former les pays et trouver des séminaires, des voies et moyens pour faire des collaborations nord-sud et même sud-sud pour pouvoir développer cela. Deux, la prévision basée sur les impacts. Les prises météorologiques font une bonne prévision. Mais aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est parler des impacts. Est-ce qu'il y a des chances de pluie ou pas? C'est d'accord, c'est bon. Mais est-ce qu'il y a des chances d'inondation? Est-ce qu'il y a des chances? Tu parlais des impacts en tant que tel. Donc, nous, on va développer aussi cette prévision basée sur les impacts. Un aléa qui est là, que les gens ne sentent pas et qu'on a vu dans l'analyse, c'est que les vagues de chaleur, ça devient de plus en plus intense. Et les Africains pensent que la chaleur fait partie de leur environnement. C'est pour cela que nous, on pense qu'on doit développer un système d'alerte précoce sur les vagues de chaleur.
Pour atteindre l'objectif de cette nouvelle vision, l'ACMAD entend développer un ensemble d'outils à mettre à la disposition de ses États membres. Docteur Ousmane Ndiaye.
À l'ACMAD, on a un desk de visite où les pays peuvent venir passer 3 à 4 mois pour apprendre les nouvelles technologies. Donc on aimerait à travers ces outils-là, comment faire que les pays puissent bénéficier de cela. On est beaucoup plus agressif, disons-le ainsi, pour aller vers les pays, pour les dire, écouter l'information climatique, les sensibiliser sur l'information climatique, tout ce qu'ils sont en train de faire, sur le long terme, je dis bien long terme, qu'ils puissent prendre en compte l'information climatique.
Dans sa programmation, la nouvelle vision de l'ACMAD a été alignée sur celle de l'Organisation météorologique mondiale. Docteur Ndiaye.
qu'on est africain, on a cette spécificité-là. Donc, ils ont un plan mondial. Donc, les choses qu'ils ont sur les glaces et autres, nous, on n'est pas trop concernés. Mais, on regarde les problèmes de l'Afrique. Supposons le problème de la malnutrition, le problème, n'est-ce pas, de la sécurité alimentaire, etc. Le problème maintenant des risques de catastrophe. Tout ça, c'est des trucs qui ont été fixés par l'Union africaine et nous, on essaie de s'aligner. En tant que service météorologique, qu'est-ce qu'on peut apporter pour être sûr qu'on réduit, n'est-ce pas, les risques climatiques dus aux aléas, aux hasards climatiques, donc pour rendre les populations, pour rendre, n'est-ce pas, les pays beaucoup plus résilients aux chocs climatiques.
Un plan stratégique de mise en œuvre de cette vision de l'ACMAD est en cours depuis le début de cette année, et ce, pour 4 ans. Abdel Razak Idrissa pour VOA Afrique, Niamey.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
L'immigration et l'économie figuraient parmi les priorités des électeurs américains lorsqu'ils sont allés aux urnes lors de l'élection générale de novembre 2024. Mais un mois après l'entrée en fonction du président Donald Trump, quel regard portent les Américains sur l'économie du pays? Véronica Balderas Iglesias de VOA a recueilli leurs avis dans la capitale fédérale avec la contribution de Ginia Dulot depuis la Californie. Le récit est de Thierry Kaoré.
L'inflation aux États-Unis a augmenté de 3% en janvier, mais plusieurs partisans du président Donald Trump à Simi Valley en Californie restent convaincus que son administration finira par la maîtriser. Jeff Merlis, partisan de Trump.
Il y a une raison pour laquelle certains prix ont augmenté et beaucoup ne reviendront peut-être jamais à leur niveau précédent, mais ils n'augmenteront pas indéfiniment une fois que nous aurons redressé l'économie.
Rebecca Giusino, également partisane de Trump.
J'ai payé 20 centimes de plus par gallon d'essence chez Costco hier, mais cela ne me dérange pas, car je sais que dans le futur, mes enfants en bénéficieront d'une manière ou d'une autre et que notre économie se redressera.
Michael Bernanke minimise les préoccupations de plusieurs économistes selon lesquels les projets du président Trump d'imposer des tarifs douaniers à d'autres pays pourrait entraîner une hausse des prix.
Les tarifs douaniers, selon moi, sont nécessaires comme levier, d'accord? Et pour rendre les échanges plus équitables entre nos achats à l'étranger et ceux des autres pays auprès de nous.
Hung Lee, propriétaire d'un garage à Falls Church en Virginie, a voté démocrate lors de l'élection présidentielle. Il observe déjà une baisse de la clientèle, certains hésitant à dépenser pour des réparations automobiles. Si des droits de douane sont imposés sur les pièces détachées, il dit qu'il devra répercuter une partie du coût supplémentaire sur ses clients.
Je n'achète pas directement mes pièces au Canada, au Mexique ou en Chine, mais nous avons un intermédiaire. Lorsqu'il me facture plus cher, nous devons augmenter nos prix. Sinon, je ne peux pas maintenir mon entreprise à flot.
Douglas Crocker, propriétaire d'un restaurant et lunch à Washington, a également voté démocrate à l'élection présidentielle. Face à l'inflation croissante, il ajuste sa gestion d'entreprise.
Nous travaillons avec plusieurs fournisseurs en gros et nous nous retrouvons désormais à devoir être plus attentifs à notre budget et à faire preuve de prudence dans nos achats.
Constantine, propriétaire d'un petit restaurant dans la capitale américaine, craint que des taxes sur des ingrédients comme les avocats mexicains ne le forcent à augmenter le prix de certains plats. Bien qu'il n'ait pas voté pour Trump, il reste optimiste quant à certaines politiques économiques du président.
Mon seul espoir est qu'il tienne sa promesse de ne pas taxer les pourboires des employés. Cela serait un vrai coup de pouce et nous aiderait énormément dans l'industrie de la restauration.
Il espère également que l'administration Trump parviendra à faire baisser le coût de l'énergie, un facteur qui influence le prix du transport des produits alimentaires.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Voilà. Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de la rédaction et la production. Au micro, vous étiez avec Rosine Mounezero, à la mise en onde, Georges Léonard Sagno. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages X, Facebook et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.
Bonjour à toutes et à tous, le Monde Aujourd'hui.